Rencontre spirituelle aujourd'hui, une émission un peu particulière, un peu différente, puisqu'il est question du cardinal de Richelieu. Et les gens vont se demander, mais c'était pas un grand auteur spirituel, c'est pas un grand saint, mais c'était un chrétien sincère à sa façon, compte tenu de l'époque et compte tenu de la façon que les gens entrevoyaient leur vie spirituelle à l'époque. C'est très très particulier. Il est mort en 1642. Et c'était un homme d'État. Il était premier ministre du roi, Louis XIII. C'était, à mon avis, un Français vraiment remarquable. Pour vous montrer jusqu'à quel point il peut nous intéresser, nous ici, au Québec, au Canada, il faut bien comprendre que la colonisation de l'Amérique du Nord, au fond, c'est une affaire commerciale à laquelle on a joint, évidemment, des préoccupations spirituelles immenses. Et beaucoup de saints ou de gens profondément convaincus sont venus s'établir ici, mais il n'y avait pas que des saints, malheureusement, il y avait des hommes d'affaires et des gens qui étaient vraiment des capitalistes, un groupe de capitalistes avisés, donc. Qui se sont rendus compte qu'on pouvait réaliser d'énormes bénéfices en revendant au prix fort en Europe les fourrures puis les peaux qu'on pouvait obtenir des Indiens pour quelques colliers de verre, de la verroterie, quoi. C'était vraiment épouvantable quand on y pense. Mais il faut rendre une certaine justice au roi de France, je crois. Qu'en toute occasion, ils ont su rappeler leur devoir de chrétiens à ces trafiquants installés sur les rives du Saint-Laurent où nous habitons. C'est comme ça qu'en 1598 déjà, Henri IV confie le gouvernement de la colonie au marquis de La Roche. Parce qu'il y avait déjà des gens établis. C'est avant 1604, avant Port-Royal, avant 1608, la fondation de Québec. Oui, déjà en 1598, le roi Henri IV confie le gouvernement de la colonie au marquis de La Roche. Il lui recommande instamment, et c'est le texte signé par Henri IV, la sainte œuvre de la conversion des indigènes et agrandissement de la religion catholique. C'est ce qu'on appelle la commission qui a été donnée au marquis de La Roche le 12 janvier 1598. Mais 5 ans plus tard, vous pourrez être surpris, il nomme le protestant Pierre du Gast à la lieutenant général de la Nouvelle-France, déjà. Donc, en 1603, avant la fondation de Port-Royal. C'est le même monarque, le même roi qui renouvelle son désir de voir appeler les sauvages, de les faire instruire, les sauvages, c'est l'expression de l'époque, hein. Je m'excuse pour les Indiens, les Amérindiens qui peuvent m'écouter, là, c'est, que voulez-vous. Appeler les sauvages, de les faire instruire, provoquer et émouvoir à la connaissance de Dieu et à la lumière de la foi et religion chrétienne. On trouve ça dans l'Escarbot, l'histoire de la Nouvelle-France de l'Escarbot. Notons encore qu'en 1608, au moment où Champlain vient de fonder Québec, Henri IV, en confirmant le baron de Poutrincourt dans ses droits de propriété de la baie de Port-Royal, dans les provinces maritimes, profite de cette occasion pour manifester son intention qu'il y mena des jésuites. Pense aux jésuites comme missionnaires. La régente Marie de Médicis, on va la voir tout à l'heure, elle a des démêlés avec Richelieu. Puis par la suite, le jeune roi Louis XIII, qui aura comme premier ministre le cardinal de Richelieu, vont veiller à l'exécution de ce vœu. Il faudra attendre quand même l'avènement de ce grand réalisateur qui est Richelieu, pour voir la Nouvelle-France enfin dotée d'une véritable organisation religieuse. C'est Richelieu qui est à l'origine, si on peut dire, de cette organisation. Le saviez-vous? Moi, je ne le savais pas avant d'avoir tout étudié ça. Je ne suis pas un spécialiste en histoire. Et d'un trait de plume, le cardinal de Richelieu commence par supprimer la compagnie des marchands, qui sont cette bande de capitalistes, là, lesquels, précise-t-il dans son réquisitoire, ont cherché plutôt leur propre intérêt que l'avancement du service de Sa Majesté. C'est ce qu'il dit. Et le ministre, donc Richelieu, de remplacer tout de suite cette société commerciale par la Compagnie des 100 associés, pour laquelle nous avons toujours eu du respect, nous qui connaissons notre histoire un peu, alors il garde sur cette compagnie, naturellement, la haute main. Puis de plus, il est bien spécifié que Louis XIII, c'est le texte continuant du même désir que le défunt roi son père, vu que l'on colonise le Canada, afin d'essayer, dit le cardinal de Richelieu, avec l'assistance de Dieu, d'amener les peuples qui y habitent à la connaissance du vrai Dieu, de les faire policier, de les instruire, quoi. De les instruire aussi à la foi et à la religion catholique. Finalement, la volonté royale triomphe. Les trafiquants ont été obligés, bon gré mal gré, de réserver dans leurs établissements une toute petite place aux missionnaires. Bon, c'était déjà ça de gagné, puis grâce au dévouement extraordinaire de quelques prêtres qui appartenaient à la Compagnie de Jésus, comme notre Saint François Xavier d'hier, bien c'est la loi d'amour qui prime, c'est la loi du Christ qui va être révélée aux tribus amérindiennes. Qui souvent, à cause de l'alcool et puis de toutes sortes de choses, étaient cruelles. De toute façon, elles étaient passablement cruelles les unes à l'égard des autres. Et souvent, bien, certaines d'entre elles étaient plutôt dissolues. Mais cette évangélisation des peuplades amérindiennes va être payée, évidemment, du sang de 8 jésuites que l'on connaît, qui sont vénérés comme les martyrs canadiens. Alors, c'est une entrée en matière pour vous montrer qui était ce Richelieu. S'il y avait une silhouette hautaine et fine, ce Richelieu, on le voit sur les tableaux de Philippe de Champagne, ou Champagne, comme d'autres prononcent. Et il y a un livre très beau qui est paru il y a à peine un an ou deux. Les trois Richelieu. Ça veut dire, il y a le cardinal Richelieu qui sert Dieu, le cardinal Richelieu qui sert le roi, et le cardinal Richelieu qui sert la raison. Oui, on en a parlé avant-hier dans l'émission sur la foi et la science. C'est un livre d'un Allemand, Jörg Wallenberg, et c'est préfacé par Joseph Rovan, traduit de l'allemand par Édouard Husson, qui a fait la postface. C'est un assez gros bouquin rempli de notes, etc. Mais c'est extrêmement intéressant pour ceux qui s'intéressent à l'histoire et qui veulent connaître Richelieu vraiment, là. Il y a des chapitres extrêmement intéressants sur le théologien, puis la réforme de l'Église chez Richelieu et Richelieu et les protestants, etc. Très, très, très bien fait, publié chez François-Xavier de Guibert, les trois Richelieu. Alors, sur la couverture, on voit un tableau de Philippe de Champagne, où on voit Richelieu de face, et il y a deux profils. Ils sont trois Richelieu sur le tableau. Vous l'avez peut-être déjà vu, c'est assez intéressant. Donc, il y a une silhouette hautaine et fine. Puis il domine l'histoire de toute la France. C'est comme celle du modèle des grands serviteurs de l'État, lui. Évidemment qu'il y a des contemporains à lui qui ne l'ont pas aimé. Il y a eu toutes sortes de calomnies contre lui, surtout au siècle dernier. Puis, dans les manuels scolaires, on n'en parle pas toujours en très bons termes. C'est qu'il a essayé de supprimer le protestantisme en France, pas de façon cruelle, mais d'essayer d'unifier la France autour de la religion catholique, autour du roi. Sa destinée présente d'ailleurs une telle unité, puis des grandes qualités d'homme malgré tout, hein, puis une grandeur, qu'on peut dire qu'au-delà de la mort, quelque chose de son autorité s'impose encore aujourd'hui à nous. Hein. En 1602, Armand Jean Duplessis, qui portait aussi le nom de marquis de Chilloux, c'est lui ça, le cardinal de Richelieu, Armand Jean Duplessis, un nom connu ici, Duplessis, Alors, il se prépare au métier des armes en 1602 dans l'académie que dirige un vieux gentilhomme, Antoine de Pluvinel, avec lequel il a eu beaucoup de contacts. Il s'adonne avec le sérieux qui est le trait le plus profond de son caractère, là, à toutes sortes d'exercices physiques, mondains, qu'enseigne ce Pluvinel. Lorsqu'en quelques jours, tout à coup, sa vie est bouleversée, il doit accepter le poste d'évêque de Luçon. Comment ça, il est jeune? Oui, il doit accepter le poste d'évêque de Luçon que son frère aîné Alphonse vient de décliner, lui, pour se faire chartreux. Son frère a un idéal extrêmement élevé sur le plan spirituel, se fait chartreux. Des ermites, ça, qui prient tout le jour et qui vivent dans la quasi-solitude. C'est extraordinaire, les chartreux. Il ne veut pas devenir évêque, Alphonse, donc c'est lui qui doit le devenir. Il abandonne sa vie active d'élève soldat. Il se consacre à une existence nouvelle, et le futur cardinal de Richelieu, bien, fait une seconde année de philosophie au Collège de Navarre pour pouvoir devenir évêque, puis sa théologie à la Sorbonne. Il a 19 ans lorsque Henri IV demande au pape la dispense nécessaire pour le nommer évêque. 19 ans, imaginez-vous. C'est inconcevable. Hein? Alors, la dispense tarde à venir du Vatican. Alors, le jeune abbé, bien, il décide d'aller la chercher lui-même. Alors, il part à Rome. Il se fait remarquer dans des controverses théologiques par toutes sortes de succès oratoires. C'est un diplomate consommé, puis il inspire confiance au pape Paul V. Et croyez-le, croyez-le pas, il est sacré finalement évêque à Rome par le cardinal de Givry, le 17 avril 1607. Quel âge a-t-il? 22 ans, puis il est évêque. Incroyable. Mais il faut dire que c'est un type extrêmement brillant. Pour l'instant, le nouvel évêque se heurte à des difficultés matérielles considérables. Il est pauvre. Il demande à une femme, Madame de Bourges, de lui acheter des plats d'argent, du prix desquels il s'est enquis au préalable pour savoir, puis les plats d'argent pourront peut-être un peu dissimuler sa pauvreté quand il va recevoir. Parce qu'il est pauvre, vraiment, réellement pauvre. Il dit d'ailleurs, « Je suis extrêmement mal logé comme évêque de Luçon. » Car je n'ai aucun lieu où je puisse faire du feu à cause de la fumée. Alors il gèle. Je vous puis assurer que j'ai le plus vilain évêché de France, le plus crotté, le plus désagréable. Il n'y a ici aucun lieu pour se promener, ni jardin, ni aller, ni quoi que ce soit, de façon que j'ai ma maison pour prison. Puis malgré tout, il se plaint pas. Il se plaint pas vraiment. Il s'occupe activement de son évêché et il y traduit une réforme importante pour le recrutement des prêtres. Il veut de bons prêtres. Il supprime ces nominations qui sont obtenues par faveur comme la sienne. Il exige des garanties sérieuses de valeur spirituelle et aussi de savoir. Au fond, sa nomination comme évêque à 22 ans, il l'a acceptée, mais il l'a prise pour faire du bien puis réformer. C'est curieux, hein? Il fait rédiger des instructions aux confesseurs. On voit là son bon sens, le sens du concret là-dedans. Puis il obtient des secours pour les pauvres. En un mot, il a toute l'initiative et ce monseigneur et toute l'activité que lui permet le petit territoire qu'il gouverne. C'est pas grand, l'évêché de Luçon. Mais il peut s'empêcher de songer à part lui que c'est diablement insuffisant. Il veut pas être limité uniquement à un travail comme celui-là. Et dès ce moment, il est obsédé par une ambition immense. Il est possible d'ailleurs, puis il est même probable, que cette espèce d'orgueil spontané qui se présente à son esprit se présente simplement. Il est animé au fond d'un feu intérieur, peut-être d'une espèce de petit démon là qui l'assoiff de pouvoir. Il manque pas de reconnaître dans ce pouvoir non pas une fin, mais le moyen, oui, le moyen qui va lui permettre de réaliser de grands projets. Et on verra ça, comment il va s'y prendre. Nous revenons au cardinal de Richelieu. C'est un jeune évêque, tout jeune. Mais il rêve de sortir de son évêché de Luçon parce qu'il a des ambitions à la fois de pouvoir, mais aussi chrétiennes, dans le sens qu'il voudrait avoir une influence chrétienne plus vaste. Il écrit, tout jeune, je pense qu'il avait 25 ans quand il écrit ça, « Les instructions et maximes que je me suis données pour me conduire à la cour ». Alors, on pourrait s'imaginer que quelqu'un qui écrit des choses comme ça, ce serait une espèce de bréviaire de l'arrivisme, pour comment arriver. Mais ça conserve, quand on le lit, une assez grande dignité puis une certaine mesure. Mais on devine le plaisir qu'il éprouve à se transporter ainsi en pensée, au milieu de la cour. Il en connaît d'ailleurs les servitudes. Il faut savoir à la cour garder un secret. Il faut savoir se taire, il faut dissimuler. Alors, il essaie d'y entrer. Mais dans son texte, on voit qu'il ne conseille pas pour autant le mensonge. Cette dissimulation est-il qui se fait par la parole et qui conduit l'esprit entre deux écueils, le blâme de la menterie et le péril de la vérité. Alors il veut être un courtisan honnête, pas facile. Alors l'occasion qu'il a voulu susciter par toutes sortes de façons, ça va se présenter finalement. C'est l'occasion des États généraux de 1614, là. Et il acquiert une célébrité soudaine à l'occasion de ces États généraux de 1614. C'est quelque chose presque d'inexplicable. La réunion des États généraux marque pour Richelieu, qui est encore jeune, une suite ininterrompue de bonheur et de réussite. Il est vêtu comme un évêque, là. Et sa silhouette mince et longue, elle devient familière. On s'habitue à prendre en considération ce jeune prélat, maigre et pâle. Il a les mains très fines. On s'accorde peu à peu à lui accorder une espèce de faveur spéciale. En pensant à sa physionomie nerveuse, il y a un regard de feu, puis il est encadré de cheveux qui retombent en boucle. Ça lui donne une physionomie aussi qui est rendue un peu sévère par une courte petite barbe en pointe. Puis il y a les deux ailes d'une moustache qui est retroussée, là. Un peu à la façon de Jacques Oud. Et l'ensemble de sa personne semble frêle, mais pourtant il y a un ascendant inexplicable qui émane de chez lui. Il y a une volonté intérieure irréductible chez cet homme. C'est à cet ascendant qu'il doit d'être désigné comme orateur du clergé à la séance de clôture de ses états généraux. C'est extraordinaire, il est tout jeune. Alors au cours des travaux, sa diplomatie avait fait merveille. Toutes ses qualités se sont manifestées, puis indiscutées. Il s'est révélé comme un chef. Et sa volonté, qui lui permet d'endurer sans un mot de plainte ses infirmités physiques, hein, il était malade toute sa vie, c'est bien celle du jeune évêque, là, qui dit un jour à ses administrés à Luçon, « Je sais, Dieu merci, me gouverner. Et je sais davantage, comme ceux qui sont sous moi, se doivent gouverner. » Bon. Il affirme son autorité. Il est tout jeune. Il faut bien qu'il affirme son autorité devant des prêtres qui doivent avoir 45 ans, 60 ans. Lui qui n'en avait que 22 quand il est devenu évêque de Luçon. Comme on sent clairement courir dans cette phrase que je viens de vous lire, cette contrainte perpétuelle que Richelieu impose à son propre corps, à son esprit. Il dit d'ailleurs, « Je sais, Dieu merci, me gouverner. » Et déjà, il parle de lui-même en homme d'État. Il est né pour commander, puis se commande à lui-même. Puis dans cet effort, il puise l'autorité intérieure qui va lui permettre de s'imposer aux autres. Il y a des maux de tête quand même, il y a des tumeurs, il y a un abcès inguérissable. Autant de tortures physiques qui, au lieu de réduire ses forces, les exaltent et forment l'aiguillon incessant de son énergie. Devrais-je vous dire que cet abcès inguérissable est à l'anus, c'est terrible. Il dit... Il est toujours en vous de vous vaincre, si vous voulez, si vous voulez, se vaincre. Il y a des éléments d'un saint là-dedans. Mais il sera premier ministre. Alors il convient de noter que cette volonté qu'il a n'est en rien comparable à des sursauts d'orgueil, d'une espèce de nervosité maladive. Non, non, c'est une volonté lente, une volonté douce, que rien n'arrête et qui ne fait rien que par raison. Pour l'instant, sa volonté n'a qu'à s'appliquer à des travaux assez agréables, se faire remarquer, s'imposer, etc. Ses désirs s'accordent sans difficulté avec sa décision, et pour y parvenir, c'est à son talent de diplomate surtout qu'il va faire appel, puis il l'a noté, il y a de l'homme de lettres chez Richelieu. Il sait écrire, il aime cela. Puis le goût, puis le sens du style lui sont naturels. C'est une arme précieuse, hein, pour un diplomate. Puis il en joue admirablement lorsqu'il parle. Il en joue en virtuose et les phrases dans sa bouche prennent une valeur nouvelle. Puis il a un charme dont il a mesuré le pouvoir puis s'en sert. La reine Marie de Médicis, la mère du roi, du jeune roi, s'y laisse prendre. Il fait si bien que par la faveur de cette reine, il est désigné comme orateur du clergé donc à la séance de clôture le 23 février. Étant donné l'âge de l'évêque, l'honneur était remarquable. Il a 29 ans. Richelieu sait s'en montrer digne. Puis il le fait remarquer. Son discours est demeuré célèbre et sur le moment, ça lui procure un grand succès. C'est un chef-d'œuvre de souplesse et d'habileté intellectuelle. Cela lui fournit un bon prétexte d'ailleurs pour marquer la nécessité de confier à des ecclésiastiques quelques hautes charges de l'État. Il veut une espèce d'union de l'Église et de l'État le plus fort possible ici pour que la conduite morale soit bonne, croit-il. Il plaide pour Domo, d'ailleurs, il plaide pour lui-même. Personne ne s'y trompe. Mais déjà, on a pris son parti des allures de cet évêque de 29 ans. Il bénéficie de la bienveillance qu'inspire son génie, puis il éprouve un plaisir profond à sentir autour de lui une foule complice. Il a toujours aimé la louange. Il a redouté le blâme aussi. Puis il demeure au cours de ces journées-là profondément heureux. Et lorsque les états généraux se séparent, finalement, il a changé d'âme. Il a maintenant conscience d'être connu puis d'être populaire. Et désormais, on va l'observer. On va penser à lui. Et sa carrière est rapide, un peu trop peut-être. Il est aumônier de la jeune reine. Il entre bientôt au conseil. Mais déjà, son ambition personnelle est satisfaite. Le temps est passé où elle inspirait des maladresses. Alors que toute une cour devenait suspecte aux yeux de Louis XIII, Richelieu, à force d'habileté, passe insensiblement d'un camp à l'autre, du camp du passé au camp de l'avenir. Et c'est pas lui qui changeait, mais c'est la France qui se reliait à son maître légitime, après avoir subi par nécessité le règne d'une maîtresse, si on peut dire. En 1622, donc l'année suivante de ce qui s'est passé, Richelieu reçoit le chapeau de cardinal. Et 2 ans plus tard, il est ministre, en somme le seul ministre, le premier ministre, il a 39 ans. L'intimité d'un homme, sa vie secrète est toujours, même pour ses familiers, un mystère impénétrable. Mais la vie quotidienne du cardinal de Richelieu, c'est un acte d'héroïsme continu. Richelieu, notre Sainte-Beuve, en rentrant au ministère, avait fait ses conditions qui étaient bien d'accord avec sa santé frêle et avec son humeur. Il n'allait pas se lever au lever du roi. Il ne recevait pas de visites, ni de ses sollicitations qui usent le temps et les forces. Il vivait avec ses confidents. Il dormait peu. Et dans ses nuits, sans sommeil, avec cette organisation que nous lui savons, toute desséchée par l'ardeur intérieure et comme amincie par la souffrance, il n'avait pour contentement austère, ainsi qu'il l'a dit quelque part d'une manière sublime, que de voir tant d'honnêtes gens dormir sans crainte à l'ombre de ses veilles. Au fond, il veillait sur la France. Il voulait que les honnêtes gens puissent dormir en paix, sans guerre. Car Richelieu ne fait pas proprement parler de distinction entre le jour et la nuit. Après un premier assoupissement, il se lève vers le milieu de la nuit, puis il dicte jusqu'au petit jour. Il se recouche alors pour se relever dès les premières heures de la matinée, 2 fois 3 heures de sommeil. Bon, peut-être 6 heures de sommeil. C'est le rythme d'une existence que ses secrétaires de nuit supportent quand même avec dévouement. Au cours de la journée, il réduit au minimum toutes les nécessités mondaines. Il n'aime pas ça. Puis à part les entretiens avec le roi, bien, le cardinal de Richelieu se réserve le plus possible de temps pour ses méditations fécondes, au cours desquelles il étudie les problèmes, puis ébauche ses plans. Et la fièvre, il est vrai, l'aide à se passer de sommeil, parce qu'il est fiévreux. En outre, il est rongé d'ulcérations anales, comme je vous ai dit. Il ne cesse, à travers les plus lamentables servitudes physiques, de travailler. Pendant 18 ans, il va gouverner la France dans ces conditions. Et quant à son travail, il est accompli avec une minutie exemplaire. Richelieu, nous dit en cour Sainte-Beuve, ne signait jamais une lettre qu'il n'eût écrite ou dictée. Mais ce premier ministre, dont l'esprit voulait être partout, partout présent, dictait souvent des lettres, instructions ou dépêches qu'il ne signait pas et que signaient les secrétaires d'État ou ministres des divers départements. En un mot, ce que je veux dire, c'est que Richelieu était porté à faire seul la besogne des autres, plutôt qu'à laisser personne empiéter sur la sienne et sur sa direction absolue. C'était un homme entier, qui dormait peu et qui priait J'ai oublié de vous le dire. Et il était fidèle. Il était fidèle à son sacerdoce et fidèle à sa foi.
Il est question aujourd'hui, exceptionnellement, de quelqu'un qui n'est pas nécessairement un grand saint, un grand spirituel, mais c'est quand même un cardinal, le cardinal de Richelieu. Et c'est bon de connaître ce personnage pour se rendre compte qu'il n'était pas ce que l'on dit souvent. Et pour en savoir davantage, je vous recommande encore le livre de Wollenberg. W-O-2-L-E-N. Wollenberg, B-E-R-G, d'un seul mot. Hein. Les trois Richelieu. Je recommence ça pour ceux qui s'intéressent vraiment à l'histoire. Hein. C'est publié chez François-Xavier de Guibert. C'est un gros bouquin, rempli de notes, c'est assez savant, c'est de 350 pages, mais c'est très, très, très intéressant pour ceux qui s'intéressent vraiment à l'histoire française de France, puis une histoire qui colle un peu à la nôtre, comme je vous ai dit au début de l'émission. Ce livre est distribué par CMD, C-M-M comme Montréal, D. Revenons donc à Richelieu, la constance de Richelieu. Elle s'exprime, on peut dire, d'une façon assez éclatante, dans deux combats qui résument sa politique intérieure en France. Le premier, c'est contre les protestants, et le deuxième, c'est contre les grands qui abusent de l'État, les nobles ou les riches. Comme plus tard Louis XIV, le problème protestant n'est pas, pour le cardinal de Richelieu, un problème religieux. C'est pas un problème religieux pour lui. Ce qu'il veut supprimer, ce n'est pas la réforme. Ce sont les intrigues politiques sournoises que certains protestants, fortifiés dans leur citadelle, comme La Rochelle, conduisent sans se lasser. On peut pas s'en étonner, il est premier ministre. Et ce n'est pas en tant que cardinal que Richelieu gouverne. Il est premier ministre. Ce n'est pas même en tant que catholique, il est premier ministre. C'est un chef politique. Il est le chef d'une communauté. Et par conséquent, il se veut avant tout détaché. Il faut dire que Louis XIII n'était pas un homme de grande envergure. Il était jeune au début aussi. Alors il n'y a aucune idéologie qui guide le cardinal de Richelieu, même à son insu. Peu lui importe de satisfaire ses passions, au fond, ou même les passions de la France. Il n'y a pas de haine dans cet homme. Mais pas plus qu'il n'y a d'amour pour ceux qu'il combat ou pour ceux qu'il soutient. Il ne veut pas se laisser prendre, il ne veut pas se laisser influencer, il veut faire, comme on dirait, son travail honnêtement. Son réalisme tient là tout entier, on peut dire. Il craint pas de s'allier aux princes de l'Allemagne du Nord qui sont protestants. Il n'hésite pas à combattre la monarchie espagnole qui est catholique. Une seule chose le guide, c'est l'intérêt de la France et la paix. Un historien l'a clairement exprimé. Le parti protestant s'était jeté dans la guerre civile avec l'appui des étrangers. Et l'unité française était en jeu quand les protestants se sont jetés dans la guerre civile. Toutes les ressources du royaume y seraient consacrées s'il le fallait, mais La Rochelle devait être prise et la rébellion protestante malheureusement réprimée. Et devant la ville de La Rochelle, elle est mêlée souvent à notre propre histoire, hein, La Rochelle. Souvent, les bateaux partaient de La Rochelle pour se rendre ici, au Québec, au Canada. Alors, devant La Rochelle, le chef de guerre se révèle dans le cardinal de Richelieu. Il est un génie inventif, un créateur de force. Et malgré de nombreux sourires, Richelieu, pour empêcher les Anglais de ravitailler les rebelles protestants, il fait construire une digue de 1500 mètres, c'est 1,5 km, ça. Une entreprise gigantesque et qui assure son succès. Et le 27 octobre 1628, la ville de La Rochelle délègue ses parlementaires au cardinal de Richelieu. C'est la victoire totale. Et contre les grands, bien, la volonté de Richelieu s'exerce avec la même âpreté, je vous ai dit, hein, contre les protestants, puis contre les grands, contre les puissants, les nobles. Son mérite y apparaît immense, hein? C'est très important. On s'est complu à parler de cet homme comme étant l'homme rouge, parce qu'il était habillé de rouge, c'était cardinal. On a jeté comme, on pourrait dire, une espèce de voile de sang sur la personne du cardinal, premier ministre. Sa physionomie s'anime dans la mémoire de ces gens-là comme s'il était méchant, le regard sur les tableaux. Il est pas méchant quand on le regarde. D'accord, il y a une figure mince. C'est pas cruel, mais on croit qu'il était cruel. Me semble c'est céder à l'horreur instinctive que suscite parfois chez des hommes puissants des actes de fermeté. Lorsque, un peu hâtivement, on les confond avec les massacres qu'inspire la passion. C'est pas par passion qu'il y a eu des morts. Hein. La fermeté de Richelieu, en faisant décapiter quelques-unes des personnes les plus hautes de la France, il a quand même évité à ce pays les horreurs d'une guerre civile. Et c'était comme ça qu'on voyait les choses à l'époque. La peine de mort, c'est pas... C'est aujourd'hui que c'est condamné la peine de mort. Dans ce temps-là, ça ne l'était pas. Puis il a évité aussi l'affaiblissement d'une nation qui, en se divisant, se suicide. D'accord, le supplice de certaines personnes, comme en particulier Saint-Mars, ou Saint-Mars, si vous voulez, Saint-Mars, a profondément ému la sensibilité des contemporains. Surtout, ça a servi de thème à bien des écrivains, bien des historiens romantiques, qui, dans leur manie d'évoquer des passions maladives et malsaines, ont su trouver ce supplice de la décapitation comme un acte de cruauté ignoble, un accès de sadisme. C'est, évidemment, quand on voit Alfred de Vigny qui a écrit Saint-Mars, ou Cinq-Mars, Saint-Mars, bien, Vigny attribue dans le procès de cette victime un rôle odieux à un prêtre, le fameux Père Joseph, qui est mort 4 années auparavant. C'est alors Alfred de Vigny, comme bien d'autres romantiques, se sont mis le doigt dans l'œil. Et c'est Richelieu lui-même qui donne la conclusion de tout ce débat, lorsqu'il formule les préceptes qui l'ont guidé. Ils mettent un terme à toutes sortes d'insinuations puis calomnies en même temps qu'ils illustrent, me semble, sa clairvoyance, la droiture de son esprit. Il écrit « Les rois doivent être sévères, les rois doivent être sévères et exacts, à faire punir ceux qui troublent la police et violent les lois de leur royaume, mais il ne faut pas y prendre plaisir. Il ne faut pas y prendre plaisir. » Il ajoute « Il faut être fort par raison et non par passion. » Il faut être fort par raison et non par passion. D'ailleurs, l'invraisemblance de l'accusation portée contre le cardinal est amplement démontrée par la profondeur, puis le sérieux de sa foi. Il était soutenu par une volonté surhumaine. Il était indifférent au plaisir, le cardinal de Richelieu. Richelieu est animé, en somme, par une intense vie spirituelle. On pourrait, sans forcer la comparaison, retrouver chez lui un peu de ces marchandages avec Dieu que Louis XI aimait tant. Hein? On a retrouvé d'ailleurs le texte d'un vœu de Richelieu dont les termes sont plutôt surprenants. Je vous le lis parce que c'est dans la conception un peu spirituelle de cette époque. « S'il plaît à la divine bonté, écrit-il, par l'intercession du bienheureux apôtre et bien-aimé Saint-Jean, me renvoyer ma santé et me délivrer dans 8 jours d'un mal de tête extraordinaire qui me tourmente, je promets de fonder en ma maison de Richelieu une messe qui se célébrera tous les dimanches de l'année. Et pour cet effet, je donnerai à un chapelain de revenus annuels 36 livres pour les messes qui seront célébrées en action de grâce. » Alors, on peut dire qu'à Dieu même, le cardinal impose des délais. Bon. Il en est posé aussi au roi. Le problème des rapports de Louis XIII et de Richelieu, si souvent abordé dans toutes sortes d'ouvrages, s'est résolu aujourd'hui, hein, dans un sens qui permet de rendre au roi, bon, une place plus importante que celle que la tradition lui a consentie. Mais un point demeure acquis, par exemple, c'est que le roi s'est intéressé très profondément aux affaires du royaume. Et ce roi, bien, son intérêt a même été si grand qu'il a commencé par refuser à Richelieu l'entrée du conseil, comme s'il avait redouté tout d'abord la personnalité envahissante du cardinal. Et lorsque celui-ci devient ministre, en somme, premier ministre, il n'y en avait pas d'autres ministres, ça ne prend pas de temps
pour que le roi se rende compte, et c'est le texte ancien ça, qu'il a sous la main un auxiliaire à tous égards unique, l'homme dont son état et dont lui-même a besoin, un homme assurément capable de porter une couronne et qui néanmoins limite son ambition à servir sous la sienne. Alors le roi s'abandonne au cardinal de Richelieu. Oh, pas tout entier. Il est étonnant de songer qu'au cours d'une collaboration qui dure plus de 20 ans, les rapports de Louis XIII et du cardinal de Richelieu ne cessent jamais d'être des rapports de roi à ministre. Il ne semble pas que les deux hommes se soient aimés, d'ailleurs. Ni même qu'une flamme d'intimité ait donné quelque chaleur à leur conversation. On l'a fait remarquer très justement, d'ailleurs. Il y a quelqu'un qui écrit « Le génie du cardinal habitera l'esprit du roi, mais le cœur du roi tiendra en échec jusqu'à la fin le cardinal. » C'est dans le domaine politique que leur accord est parfait. Et l'un et l'autre y ont le plus grand mérite. Et Louis XIII a le courage, quoi, de supporter à côté de lui un homme qui lui est bien supérieur. Le roi a le courage, plus encore, de le défendre contre les attaques. Il a toutefois la sagesse de ne pas abdiquer son pouvoir entre ses mains. Il est roi. Quant au cardinal de Richelieu, son mérite n'est pas moins grand. Non seulement il ne cherche jamais à se passer de l'assentiment de son roi, ou de lui dissimuler quelqu'un de ses actes, mais encore, il est assez habile pour ne jamais le blesser, il blesse jamais le roi. C'est pas de la flatterie que de lui dire qu'un prince malhabile ne saurait être ni bien conseillé ni bien servi. C'est préciser au roi le rôle exact qui lui revient, se faire bien servir, accepter quand on a un grand pouvoir d'être assisté, conseillé, aidé. Les dictateurs n'aiment pas ça. C'est pas toujours facile. Étant donné les attaques incessantes dont son ministre, le cardinal de Richelieu, est l'objet, le roi de la misère. Mais Richelieu insiste, d'ailleurs, sur la subordination qu'il observe fidèlement à l'égard de son souverain. Il écrit le 23 août 1625, « Je soumets toutefois cette pensée, comme je ferai toujours toutes les miennes aux volontés de Sa Majesté. » Il est entièrement soumis et il est sincère. Il y a un événement qui se déroule dans la vie du cardinal de Richelieu qui est terrible, c'est la journée des dupes. Ça provoque une crise grave entre les deux hommes. Ça a pour conséquence de les grandir l'un et l'autre, finalement, dans leurs jugements respectifs qu'ils se portent l'un sur l'autre. C'est au début du mois de novembre. Depuis plusieurs jours, la reine mère, Marie de Médicis, fait pression sur l'esprit de son fils pour obtenir la disgrâce du cardinal, servirait contre lui. Elle a dû entendre des choses. À la cour, il se dit bien des choses. Et le cardinal, qui le sait, s'introduit un matin au palais du Luxembourg, puis parvient au cabinet de la reine par un couloir dérobé, puis il entre sans frapper, imaginez. Et il dit à la reine, « Je savais que vos majestés parlaient de moi et je me suis permis de venir me justifier. » Et la reine éclate. Elle jette au visage du cardinal tous les griefs qu'elle a contre lui. Elle tremble. Elle ne peut contenir sa rage. Mais le roi doit choisir entre Richelieu ou sa mère, la reine. Et devant ce déchaînement, le cardinal, ébranlé par la violence de la reine, y perd son sang-froid. Et conscient de l'immense péril que lui fait courir l'attitude de la reine-mère, il se jette aux pieds de la reine, et pleurant, il essaie de l'adoucir, mais rien ne peut calmer la volubilité italienne. Et c'est alors que le roi congédie son ministre et annonce à sa mère qu'ils partent pour Versailles. Et Richelieu se croit congédié, la reine-mère triomphe, mais ils se trompent tous les deux. Alors, on a vu qu'il y a eu une grande dispute entre la reine-mère, Marie de Médicis, et le cardinal de Richelieu, premier ministre du roi Louis XIII, fils de Marie de Médicis. Et le roi convoque le cardinal de Richelieu. Il l'embrasse. Il lui dit, « J'ai en vous le plus fidèle et le plus affectionné serviteur qui soit au monde. J'ai été témoin du respect et de la reconnaissance que vous avez toujours eue pour la reine, ma mère. Si vous aviez manqué à ce que vous lui devez, je vous aurais abandonné. Mais je sais qu'elle n'a aucun sujet, au fond, de se plaindre de vous.
Elle s'est laissée prévenir par un calcul que je saurais bien dissiper, c'est-à-dire par des racontards. Continuez à me servir comme vous avez fait jusqu'ici, et je vous maintiendrai contre toutes les intrigues de vos ennemis. Alors le roi Louis XIII, on peut dire, est digne de son ministre, et en lui, le roi l'emporte sur, on pourrait dire, sa piété filiale à l'égard de sa mère. Aux yeux de Richelieu, cette attitude compense les plus graves offenses. Et quant au roi, bien, il remercie le cardinal, il sait reconnaître dans ce cardinal, en présence même de l'injustice, de la reine, d'avoir su courber la tête devant elle et de ne pas s'être laissé gagner par la colère. Parce que Richelieu a respecté la dynastie, eh bien, Louis XIII sait prendre sa décision en monarque. Hein, c'était comme ça, les rois. Et la France est bien gouvernée, puis, par un homme qui, finalement, a une tête sur les épaules. Et jusqu'à la fin, leur alliance entre Louis XIII et le cardinal Richelieu est, pour ainsi dire, indestructible, parce qu'elle est fondée sur la raison, sur la sagesse, et non ça, et non pas sur l'affection ou la crainte. Et le cardinal de Richelieu, puis son maître Louis XIII, on peut dire, ne cesse d'illustrer ce grand précepte qu'a formulé le cardinal de Richelieu, puis qui compose leur principale règle de vie. Il a écrit « Ceux qui sont vindicatifs de leur nature, qui suivent plutôt leur passion, on pourrait mettre ça dans les règlements des mariages, ceux qui sont vindicatifs de leur nature, qui suivent plutôt leur passion que la raison, ne peuvent être estimés avoir la probité requise au maniement de l'État. Si un homme est sujet à ses vengeances, le mettre en autorité est mettre l'épée à la main d'un furieux. » C'est bien dit, je trouve. Et c'est ce qui est arrivé, n'est-ce pas, avec Staline, Hitler, Chouinard, etc., etc., et Pol Pot, ça n'en finit plus. La mort arrive finalement. Le cardinal de Richelieu meurt pieusement le 4 décembre 1642, c'est-à-dire, en fait, quand on y pense, 6 mois avant la fondation de Montréal, Ville-Marie. Et à l'heure d'abandonner le pouvoir puis les honneurs qu'il a depuis 18 ans, Richelieu demeure extraordinairement fidèle à lui-même. On ne voit pas chez lui le moindre changement d'attitude dans la réponse qu'il fait au curé de Saint-Eustache qu'il confesse. Et c'est très amusant, cette conversation du curé et de Saint-Eustache à Paris, puis de cardinal de Richelieu. Le curé lui dit « Pardonnez-vous à vos ennemis. » Il dit « Je n'en ai pas eu d'autres que ceux de l'État. » En somme, d'une réponse de feu, le ministre, cardinal de Richelieu, s'est identifié avec le chrétien. Il résume la philosophie profonde de sa charge. Il n'a pas à pardonner avec son âme, car cette âme n'a jamais eu d'ennemis. Il ne lui appartient pas de pardonner aux ennemis de l'État, car seul l'homme meurt en lui. En somme, le ministre, lui, est éternel. Armand-Jean Duplessis, évêque de Luçon, donc, cardinal, ministre du roi, l'un des plus grands hommes d'État que la France ait connu. Il a fait beaucoup pour la France. Tout ce qui était possible, en fait, d'amélioration sociale au temps de Richelieu, a été tenté par cet homme, dit Augustin Thierry, dont l'intelligence comprenait tout, dont le génie pratique ne mettait rien, qui allait de l'ensemble au détail, de l'idée à l'action, avec une merveilleuse habileté. Et cela, c'est vrai. C'est incontestable, mais ce serait très mesquin, il me semble, de dénigrer un homme d'une telle valeur, simplement pour en exalter un autre. L'œuvre du cardinal de Richelieu était immense et féconde, et ce programme gigantesque qu'il a proposé au roi Louis XIII, soit de ruiner le parti huguenot, rabaisser l'orgueil des grands, réduire tous ses sujets en leurs devoirs, comme on dit dans les vieux textes, et relever son nom dans les nations étrangères, au point où il devrait l'être, le nom de la France, abaisser la maison d'Autriche pour rendre à la France les limites que la nature lui a fixées, dit-on. Mais ce programme, il l'a tenu, il l'a dépassé même, puisque, par son intelligence et son activité, C'est lui qui a permis à Samuel de Champlain de fonder par-delà les mers la Nouvelle-France. Mais de cette œuvre immense, que reste-t-il aujourd'hui un souvenir glorieux? Une des plus belles pages de l'histoire de France, et un peu de la nôtre. Et c'est beaucoup déjà. Sans Richelieu, le siècle de Louis XIV n'aurait pas connu pareil éclat. Cependant, le temps a coulé, comme un torrent, on pourrait dire, dévastateur. Il y a eu les révolutions qui ont passé. En France, il y a eu 3 révolutions, 1789, 1830, 1848, et la royauté a sombré en France. Et du Louvre et de Versailles, bien, la vie s'est retirée, ce sont des musées. Et seul le souvenir demeure. Sur la colonnade de Perrault, il y a des lambris dorés, là, de la galerie des glaces. C'est le souvenir d'une royauté qui est finie, qui est disparue. Le parti huguenot a été réduit, peut-être, à Alais. La révocation des édits de Nantes en a fait pour des années l'ennemi mortel de la France. Mais douloureuse ironie, vous savez que le monastère des Visitandines Sainte-Marie, construit au temps de Richelieu au faubourg Saint-Antoine, s'est devenu, depuis le Concordat, un temple protestant. Puis juste en face du Louvre, il y a la statue de Coligny qui se dresse là au chevet de l'ancienne église de l'Oratoire, fondée en 1611 par Pierre de Bérulle, un protestant. La Nouvelle-France, gagnée au prix de tant de peine, le Québec, le Canada, là, toute l'Amérique du Nord, la Nouvelle-France, c'est gagné au prix de tant de peine, de tant de sang aussi, le sang de héros puis de martyrs. Ben, elle est passée en 1760 aux mains des Anglais, si le cardinal de Richelieu avait su ça. Hein. Pourquoi? C'est à cause de l'incurie d'un autre roi de France, c'est Louis XV. En somme, de l'œuvre immense de Richelieu, que reste-t-il aujourd'hui? Pratiquement rien. Pratiquement rien. Si ce n'est le souvenir d'un très grand homme, et j'espère que vous avez vu que ça valait la peine de parler de lui. Et demain, nous allons parler de Mozart, mort en 1791. Qui ne connaît pas Mozart, ce compositeur génial autrichien, qui était sauvé par sa foi, oui. Vous verrez. Et sa musique sacrée.